Il leur raconta alors cette parabole. Le domaine d'un homme riche ou d'un propriétaire riche avait rapporté de façon exceptionnelle. L'homme se mit à réfléchir. Que faire ? Se demandait-il. Je n'ai pas assez de place pour engranger toute ma récolte. Ah ! Se dit-il enfin. Je sais ce que je vais faire. Je vais démolir mes greniers pour en construire de plus grands. Et j'y entasserai tout mon blé et tous mes autres biens. Après quoi, je me dirai, mon ami, te voilà, pourvu de biens en réserve pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois et réjouis de la vie. Mais Dieu lui dit, pauvre fou que tu es. Cette nuit même, tu mourras. Et tout ce que tu as préparé pour toi, qui va en profiter? Voilà quel sera le sort de tout homme qui amasse des richesses pour lui-même au lieu de chercher à être riche auprès de Dieu. C'est un différend entre deux frères concernant un héritage, une dispute que le Seigneur refuse d'arbitrer, qui introduit cette parabole du riche insensé. Parler d'argent reste toujours un sujet tabou dans notre société, un sujet délicat, un sujet qui fâche parfois. Pourquoi cette pudeur lorsqu'il s'agit de parler d'argent? Une piste importante me semble à explorer pour répondre à cette question. Parler de ses richesses revient à parler de soi, à se mettre à nu face aux autres. N'est-il pas difficile, mes chers frères et sœurs, d'aller demander de l'aide à un assistant social ou à une association humanitaire? Notre estime de soi ne prend-elle pas un coup? Car l'argent semble occuper une place intime dans la vie sociale et psychologique de l'être humain. Parler de son argent peut laisser apparaître le rôle que nous lui donnons dans notre avenir. Ceci dit, notre langue française regorge d'un nombre considérable de proverbes en rapport avec l'argent. Parmi ces proverbes, il y a trois que nous pouvons citer, bien connus. L'argent ne fait pas le bonheur. L'argent n'a pas de couleur. Ou bien l'argent n'a pas d'odeur. En réalité, l'argent occupe une grande place dans la vie de l'être humain. C'est la raison pour laquelle la Bible parle de l'argent et elle développe tout un enseignement sur lui. La parabole du riche insensé dans Luc 12 concentre à elle seule toute une théologie sur la richesse matérielle. Elle fait en quelque sorte office de synthèse de tout l'enseignement des Écritures sur la richesse. Un entrepreneur compétent, qualifié de pauvre fou par Jésus. Comme le montre la bonne santé de son entreprise, cet homme est un véritable chef d'entreprise intelligent, un homme d'affaires qui a bien investi ses capitaux dans sa production, un homme compétent professionnellement. Il a su mettre les moyens techniques, le personnel, un homme travailleurs. La Bible ne condamne pas d'être un tel chef d'entreprise. Mais en quoi et pourquoi la critique du Seigneur est-elle justifiable? Malheureusement, notre excellent entrepreneur s'est trompé sur plusieurs points concernant l'argent. Nous verrons quelques-uns, peut-être un autre jour d'autres. Quelles sont les erreurs de cet homme riche, ou bien quelles sont les erreurs de cet homme riche dans ce passage? Peut-être ainsi, pour être ainsi qualifié de fou, d'insensé par le Seigneur. Les propos de Jésus à cet homme riche écartent plusieurs thèses. Celle que ce soit une mauvaise chose qu'il soit fortuné, celle qu'il aurait gagné cet argent de manière malhonnête. Il faut écarter ces thèses. Mais il est important de souligner que lorsque la Bible condamne le désir de richesse, elle ne prête pas forcément du doigt l'homme d'affaires qui cherche des capitaux, qui cherche des fonds pour développer son entreprise ou bien pour créer son entreprise. Un survol des Écritures montre que l'Ancien Testament et le Nouveau Testament valorisent positivement l'argent. Selon l'enseignement biblique, l'argent n'est pas un problème en soi. Certains serviteurs de Dieu étaient riches. Par exemple, Abraham, Salomon, Job. Cependant, nous devons prendre garde à ne pas interpréter la richesse comme représentant nécessairement la bénédiction de Dieu, puisqu'il y a des chrétiens pauvres. Et pourtant, ils sont bénis par Dieu. Dans son serment sur la montagne, Jésus ne condamne pas les possessions matérielles en soi, ni la prévoyance. L'Ancien Testament enseigne déjà l'importance de l'épargne, en prenant par exemple la prévoyance de la fourmi. Cette vérité est soutenue par les Écritures dans son ensemble. Le don que le Créateur a attribué à ses créatures, leur sont donnés pour qu'elles en jouissent. De plus, le désir de richesse personnelle est indispensable pour la croissance économique d'un pays. Pourtant, le désir de richesse est vu en général sur un angle prononcé et accusatif de cupidité. La Bible est loin de condamner la promotion sociale, puisqu'elle enseigne que l'ouvrier mérite son salaire. Donc, il est juste d'être payé selon ses compétences, le travail fourni, ce qui a pour conséquence d'être plus ou moins riche. En revanche, la Bible condamne le désir de richesse quand il prend la forme d'une course au profit effrénée chez les actionnaires des grandes entreprises privées, ou celle d'une obsession, des objectifs de croissance chez des dirigeants d'État. Nombreux sont ceux qui se posent des questions sur sa légitimité. Une légitimité qui est mise en question par la cupidité, qui est une marche non selon l'esprit, mais selon la chair, qui se traduit par une accumulation égoïste des biens matériels. Ceci dit, cette parabole nous livre une critique pointue sur la philosophie de cet homme riche, concernant le bien vivre sa vie. La question à laquelle les lecteurs de Luc doivent répondre est celle-ci. À quel projet de vie cet homme riche, s'est-il consacré avec sa richesse? C'est une question que nous devons aussi répondre pour nous-mêmes ce matin. Une vie dans laquelle l'argent est un instrument de pouvoir. L'argent peut l'être par une philosophie de vie centrée sur soi. L'argent donne la pleine suffisance, la puissance, le contrôle de tout. L'argent est le ressort de la puissance humaine. Certaines personnes croient qu'il faut mieux être riche matériellement que de l'être en amour. Selon elle, là où l'amour trouve ses limites, l'argent transcende. D'autres proverbes vont dans ce sens. L'amour fait beaucoup, l'argent fait tout. Beauté et puissance, l'argent est tout puissance. Ces proverbes mettent bien en évidence que l'argent est plus utile que l'amour et la beauté physique. Première chose. Deuxième chose, l'argent peut devenir un instrument de pouvoir par une philosophie envers les autres. L'abus de pouvoir est une des caractéristiques de l'argent comme instrument de pouvoir. Il fait de l'homme un loup pour l'homme. Ce loup, c'est l'individualisme qui fait de l'homme un prédateur. La philosophie d'un prédateur est de faire tout pour conserver sa vie au détriment des autres. La chaîne alimentaire des animaux est quelque chose de violent. Il n'est pas surprenant que cela dépasse l'entendement de l'être humain. Pourtant, la sagesse, l'intelligence et la puissance de Dieu se voient dans sa création. Le savoir-faire du Créateur et sa sagesse sont telles que même si ses œuvres nous paraissent étranges, on doit penser qu'il a raison et qu'on ne les saisit pas. Nous pouvons lire Job, par exemple, Job 38, ainsi que Psaume 104, qui montre comment qu'il n'y a pas de faute de la part de Dieu, de la manière qu'il a mis en place pour que les animaux se nourrissent. Contrairement à la chaîne alimentaire des animaux, le pouvoir de l'argent crée un trouble, un dysfonctionnement au sein des relations humaines. C'est-à-dire que l'argent utilisé comme un instrument de pouvoir devient comme un prédateur qui ne se prive d'aucune proie qui se présente à lui. Vous pouvez lire l'épître de Jacques, comment il montre les riches qui accaparaient, qui pressaient les pauvres. L'argent peut devenir aussi un instrument de pouvoir par une philosophie de vie envers Dieu. L'argent comme instrument de pouvoir fait croire à l'être humain qu'il maîtrise son destin à la place de Dieu, que Dieu est un accessoire, qu'il est facultatif dans les activités de l'homme pour gagner son pain quotidien, que l'homme peut se tirer d'affaires tout seul, qu'il n'est pas important de se soucier de glorifier Dieu avec notre richesse, mais plutôt de se glorifier soi-même, que la richesse est décisive dans l'art de bien vivre sa vie au détriment de la crainte de l'Éternel, qu'il est préférable de posséder de la richesse plutôt que d'espérer en Dieu. Nous avons mis le doigt ici sur la symbolique de l'argent. Sans doute, cet homme riche s'est demandé si l'argent est dans la vie de l'être humain un moyen ou une fin en soi. Son comportement nous révèle son choix, d'une part, et d'autre part, qu'il s'est trompé sur cette question. L'argent comme une fin en soi et non comme un moyen. Cet homme a fait de l'argent un but en soi, le sens de sa vie, de son existence, le souci de sa vie, et j'en passe. En donnant cette place à l'argent, l'homme fait de lui une idole. Pour arriver à considérer l'argent comme une fin en soi, cela demande d'y être fortement attaché. La relation de l'être humain avec l'argent est menacée par l'idolâtrie, qui est une des œuvres de la chair. L'argent peut être vite, très vite, devenir une idole. Elle prend, en prenant le contrôle de la vie de l'être humain, il prend la place de Dieu. Ce culte rendu à l'argent se traduit par une lutte acharnée pour gagner plus, pour accumuler plus de richesses et thésauriser son capital en banque, c'est-à-dire conserver jalousement ce qu'on a. Nous constatons que cet homme bâtit sa sécurité personnelle sur ce qu'il pensait être solide, c'est-à-dire la sécurité matérielle. L'argent a ce pouvoir de séduire l'être humain avec l'idée que la richesse peut résoudre bien des problèmes. Malheureusement, la mort ne donne raison ni à cet homme, ni à la richesse, car elle fait voler en éclats cette sécurité illusoire des biens matériels. Cet homme commet une erreur de jugement sur la nature des richesses matérielles. Car la richesse, comme une fin en soi, est une ambition erronée. Autant que l'homme, la richesse matérielle est éphémère. Cet homme n'a pas mesuré la finesse de la richesse. Elle est paradoxale. C'est-à-dire, plus qu'on s'enrichit, plus on craint de devenir pauvre. C'est bizarre, mais c'est vrai. Voilà le cercle vicieux que nous propose la richesse comme fin en soi. Puisque la richesse se présente comme un rempart contre la fragilité de l'être humain. Faire de la richesse sa sécurité, c'est ouvrir une porte à la peur et à la cupidité. D'un point de vue psychologique, l'argent se propose de calmer des craintes qui sont en réalité insatiables. De ce fait, l'être humain ne peut pas exercer sa générosité que Dieu lui demande, étant donné qu'il doit accumuler sans cesse, sans limite des richesses pour calmer ses peurs. Quand on fait de la richesse une fin en soi, elle devient une puissance néfaste. La richesse comme une fin en soi justifie la cupidité. D'où l'avertissement du Seigneur. Gardez-vous de toute cupidité. Car la cupidité, qui est une idolâtrie, nous fait ressembler à ce qu'on adore. Elle nous fait ressembler à une idole. en vidant notre intérieur des qualités spirituelles, morales, et nous rendant inertes, creux, insensibles à notre prochain et même à Dieu. Elle plonge notre cœur dans un désert spirituel. Mais plus grave, elle va jusqu'à priver l'être humain du royaume de Dieu. Difficile pour un homme riche rentrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile qu'un chameau passe par un trou d'aiguille qu'un riche trouve le royaume de Dieu. L'économie devient pervertie quand l'argent devient une fin en soi, puisque la recherche du profit commercial comme finalité absolue fait de l'une des parties du contrat, de la transaction, un instrument. Sans oublier les manières controversées qu'il peut y avoir. La richesse comme une fin en soi peut devenir une figure du mal dans l'économie, dans la politique, dans les relations humaines et enfin dans les églises. Les églises ne sont pas à l'abri. En effet, la trahison monnayée de Judas témoigne d'une part qu'il est grave d'utiliser l'argent comme une fin en soi et d'autre part que la cupidité franchit toute frontière dès qu'on lui donne un passeport. La question se pose, l'argent peut-il corrompre tout ce qu'il touche? Non, en tant que moyen et monnaie sous toutes ses formes, c'est-à-dire pièces et papiers et billets. Oui, en tant que fin en soi. Il peut transformer les relations de fidélité en infidélité. L'amour en haine, la haine en amour, la vertu en vice, le vice en vertu, l'esclave en maître, ainsi de suite. Mais l'argent, d'après les Écritures, est un moyen et non une fin en soi. Pour bien comprendre que l'argent est un moyen, il faut comprendre le fonctionnement du commerce. Le vrai commerce est caractérisé par des échanges de marchandises dans le but de satisfaire la clientèle. Mais pour évaluer la valeur de ces marchandises à d'autres dans le cadre, par exemple, de la concurrence, il faut un instrument d'évaluation, c'est-à-dire l'argent. Ce dernier est un moyen d'échange, rend transparente la valeur du produit ou du service vendu. Aristote comprenait l'argent comme un moyen d'échange. Qu'est-ce qu'il disait ? Il disait, il est nécessaire que toutes les choses qui s'échangent soient en quelque sorte commensurables entre elles. Et c'est à cela qu'est venu servir la monnaie comme une sorte de moyen terme, car elle mesure toute chose, si bien que évaluant le trop et le trop peu, elle permet d'établir combien de chaussures équivalent à une maison ou à la nourriture. L'argent est un moyen et non une fin en soi. L'argent est donc uniquement un moyen nécessaire. Non seulement l'argent est un moyen nécessaire, le commerce est lui aussi un moyen et non une fin en soi. L'argent est un moyen du commerce. Donc, l'argent est le moyen d'un moyen. Il ne saurait être un but en soi, une fin en soi. L'homme riche s'est trompé. Il n'avait pas cette philosophie que l'argent et la richesse comme des moyens pour vivre, comme des moyens pour faire certaines choses. Sa philosophie de l'argent et de la richesse lui a induit en erreur en confondant la fin et les moyens. Son erreur est à l'origine de l'avertissement du Seigneur, gardez-vous de toute cupidité. Le Seigneur sait à quel point la richesse comme fin en soi est une puissance capable de dominer l'homme. L'homme ne peut pas contrôler la richesse. Cette puissance dominait cet homme riche et insensé, puisqu'il ne possédait pas la sagesse de Dieu pour l'éclairer sur la place que l'argent et la richesse auraient dû occuper dans sa vie. Chers frères, chères sœurs, quelle place l'argent prend-il dans notre projet de vie? Notre consécration à Dieu est-elle affectée par l'amour des biens matériels ou est-elle en passe de le devenir? Nous traversons diverses épreuves en ce moment. Est-ce que pour traverser l'une d'entre elles, l'argent nous semblerait être un moyen plus efficace que Dieu lui-même? Ce sont des questions que je laisse pour vous ce matin, pour moi et pour cette semaine.